Pascal Mondial.
CV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Et bon jeudi à 10h02, l'heure CV qui commence. On est ensemble jusqu'à 11h. Bienvenue chez vous, comme dirait Denis Gravel, à Boulevard 102.1. En plus, ces temps-ci, ben, c'est très payant de nous écouter parce qu'on a un super concours. Je vous en reparle dans un instant, mais si vous n'êtes pas au courant, fallait être là aujourd'hui là, pour l'apprendre officiellement en ce moment. Sinon, vous allez manquer le train. Comme on dit, il va passer puis vous n'aurez aucunement la chance d'aller à San Francisco. Je dis ça parce qu'on a un des plus beaux concours offerts dans les médias à Québec en ce moment. Puis je le dis en toute franchise, là, on n'est pas en train de se donner le chapeau qui nous fait pas. Il nous fait. On est super contents en plus d'avoir travaillé ça avec Variété 2020. On vous en reparle. Ah, ben, du moins, je vous en reparle dans leur CV, ça c'est sûr, puis les autres équipes aussi, parce que c'est notre grande fierté de vous gâter comme ça, de vous faire triper. Aujourd'hui à leur CV, plein de petites choses au programme, entre autres relations interpersonnelles. Je vais aller vous gratter là où ça peut faire mal et où on sera dans la confidence. Je veux savoir plein de choses, entre autres sous la thématique « Après une relation, comment vous agissez? » Hein? C'est quoi votre profil type? On va en jaser parce qu'il y a une petite étude qui est sortie. Bien, bien, bien intéressante aussi. On se gâte avec une entrevue sur le Salon du livre. Allez-vous y aller? Ça a commencé hier. On a vu plein de dignitaires s'y rendre, mais vous allez peut-être y aller aussi au Centre des congrès, profiter de plein d'auteurs qui sont en ville. Puis il y a plein de têtes d'affiches aussi. Jeannette Bertrand qui sera là. Il n'y a pas mieux côté sagesse. Sagesse, fougue, courage, puis discours intéressant que Jeannette Bertrand, je pense, dans tout ce qui est humain. Je mettrais Boucard Diouf là-dedans aussi, Serge Bouchard, feu Serge Bouchard, mais quelques personnes, mais Jeannette Bertrand, honnêtement, une femme qui a défoncé bien des barrières, qui sera ici à Québec pour vous rencontrer avec plein d'autres auteurs. Si c'est pas nécessairement ce que vous aimez lire, c'est pas grave. Le Salon du livre, c'est pas simplement pour ceux qui lisent 150 livres par année. C'est aussi des rencontres, c'est aussi des conférences, c'est aussi découvrir peut-être des lectures que vous allez aimer. La BD, entre autres, c'est pas juste pour les enfants. Là, si vous avez lu Les Paul à quelque part, BD québécoise, vous allez peut-être découvrir là un endroit rassurant pour la lecture. Même chose que pour la BD de Fabien Cloutier, l'humoriste que vous connaissez aussi, bien, il en a écrit une qui est excellente puis qui fait même vraiment réfléchir sur le côté humain. Cependant, elle est sortie il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas, mais j'avais lu ça. C'est « Comment faire cuire un poulet ». Moi, ça m'avait chaviré. Il y a quelque chose de le fun aussi parce qu'on commence à incorporer des illustrateurs qui se démarquent. Je pense à Félix, entre autres, que vous pouvez suivre sur Instagram et autres. C'est lui qui a dessiné les canettes de la souche. On adore la souche. On adore les canettes de la souche. Qui écrit des livres aussi, mais qui les illustre. Puis ça, c'est un don complet. Là, il était venu en studio, rappelez-vous, il avait dessiné Reg, moi et Max pendant une pause. Mais être capable de nous transporter comme ça en images d'une manière assez spectaculaire, bien, c'est totalement Félix. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. On va jaser des nouvelles aussi. Il y a plein de choses à dire. L'autoroute Félix Leclerc qui sera un chantier épouvantable jusqu'en 2026. Pour refaire quoi? Deux ponts. Que voulez-vous? Quand on est là, mais on est là un peu trop souvent au Québec. Garde des stupéfiants aussi qui refait l'actualité. Il y a eu 3 arrestations dans une frappe à Lévis. On n'a pas arrêté d'être performants du côté des policiers à ce sujet-là. Je vais vous parler aussi d'une situation de violence conjugale. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu un texte d'actualité qui, à chaque paragraphe, mais je l'ai encore plus. Ce matin, là, je buvais mon petit café, souvent sur mon petit divan avec le soleil qui entre. Pas trop de soleil aujourd'hui, on en reparlera. Mais là, je m'entendais me parler à moi-même, dire « Ben voyons donc. C'est quoi cette histoire-là? Elle est vraiment quelque chose. » Puis je vous en glisse un mot, assurément, à l'émission. Bienvenue dans leur CV. Bienvenue à Boulevard 102.1. Vous êtes sur le bon poste. Merci de nous avoir choisis. C'est 6 degrés en ce moment à Québec. Alternance soleil-nuage, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup plus de nuages que de percées de soleil. Ça va monter jusqu'à 11 degrés aujourd'hui. 40 % de possibilité d'averse, c'est ce qu'on prévoit. Ce soir et cette nuit, un peu plus froid, 8. Vendredi, demain, 14. Mais ce sont des averses jusqu'à samedi, assurément. Dimanche, on dirait que Mère Nature ne se branche pas. Là. Ça change d'heure en heure. Mais pour l'instant, c'est alternance soleil-nuage. On avait avait de la pluie hier, là, finalement, c'est ça. On se recadre un peu et il y aura peut-être un peu plus de soleil pour la journée dimanche que ce qu'on prévoit. Je prends les présences 418-971-1021 ou encore sur Twitch. Twitch, c'est quoi? Des caméras en studio. On met nos plus beaux attraits pour vous. Là. On se toilette. Là. On est vraiment des gens qui pourraient aller à un gala à chaque jour pour vous, vu les caméras en studio. Puis on peut jaser aussi pendant les émissions et pendant également les blocs publicitaires avec Twitch. Twitch.tv/BLVD/FM. Si vous avez essayé de capter ce que je viens de dire et ça n'a pas fonctionné, 418-971-1021, je vous envoie le lien. Feu la nuit et fleurs dans vos oreilles. On revient.
L'heure CV.
Quand je réfléchis, j'ai six cerveaux, en fait.
L'heure CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
Là, suivez-moi bien, OK? Je sais que peut-être c'est pas votre tasse de thé, mais ce l'est pour beaucoup de gens. Et avant de critiquer, je dis ça, mais comme si c'était pas un événement à ne pas manquer, tellement populaire à chaque année, j'aimerais que vous permettiez cette année de l'essayer si ça n'a jamais été votre cas. Je vous explique. Salon international du livre de Québec. C'est commencé depuis hier et c'est jusqu'au 14 avril. Donc, vous avez plusieurs journées pour en profiter. C'est jusqu'à dimanche. En plus, Mère Nature n'était pas de notre côté. Elle a décidé de nous pleuvoir dessus tout en douceur. Question, justement, de nous permettre d'aller au Salon du livre sans manquer de percée de soleil. Chose certaine, pourquoi je vous dis de me suivre, c'est que je sais que vous êtes plusieurs, fervents de lecture, mais c'est comme si on oublie d'en parler. Une fois de temps en temps, Nathan Meilleur et moi, on vous jase de nos bonnes lectures annuelles. On vous en met sur nos réseaux sociaux aussi, mais c'est tellement important et c'est pour tout le monde, le Salon du livre. Je dis ça parce que vous n'êtes pas obligé de lire nécessairement pour aller faire des belles rencontres, pour aller peut-être découvrir votre style de lecture, y aller avec vos enfants, même si vous n'êtes pas passionné nécessairement, peut-être que vous allez pouvoir donner cette envie-là à vos enfants. Et c'est un bel échappatoire. C'est bon pour tout ce qui est imaginaire. C'est bon pour une petite pause de cerveau à tous les jours, pour apprendre, se divertir ou vivre la vie de quelqu'un d'autre, tout simplement, par procuration, finalement, de lecture. Mais quand on se force, quand on n'a jamais fait ça, ça va prendre quelques fois avant que ça devienne finalement un réflexe, puis tout simplement quelque chose dont on a envie. J'ai envie, justement, qu'on parle à quelqu'un qui s'y connaît bien en Salon du livre. Je l'ai invitée. Elle s'appelle Mélanie Pelletier. Bonjour, Madame Pelletier.
Bonjour.
Vous êtes, une personnalité très importante du Salon du livre. À Québec, entre autres, ça se déroule depuis hier. Comment est-ce que vous décrirez, vous pouvez décrire en fait cet événement-là à Québec pour quelqu'un qui n'est pas intéressé d'abord et avant tout?
Bien, en fait, c'est l'occasion de venir découvrir des auteurs parce que, vous savez, on reçoit 1316 auteurs durant plus de 5 jours. Donc, il y en a pour tous les styles, tous les goûts. Et il y a beaucoup d'activités également qui se passent durant les 5 journées. Donc, comme vous avez dit en entrée de jeu, on n'est pas obligé d'être un grand amateur de lecture, mais pour juste venir découvrir, ça vaut vraiment la peine d'assister aux activités qu'il y a sur scène, effectivement. Mmh.
Parce que vous êtes la directrice générale, en fait, du Salon du livre, du Salon international du livre de Québec. Vous connaissez très bien ce qui va se dérouler pendant les prochains jours. Puis, effectivement, il y a même des conférences. Puis, il y a des endroits très précis où des auteurs très connus comme Jeannette Bertrand vont être derrière une petite table puis parler, prendre le temps de parler avec tous et chacun, pas nécessairement juste de leurs ouvrages, mais de tout ce qui peut intéresser un futur lecteur ou quelqu'un qui, justement, a envie d'en apprendre un petit peu plus sur ces auteurs-là. On est choyé de les accueillir à Québec.
Tout à fait. On est vraiment choyés. Puis comme vous l'avez dit, Mme Bertrand sera là samedi. C'est notre doyenne, hein? Donc on est vraiment, mais vraiment choyés de l'avoir à 99 ans, que puisse encore faire des salons du livre. C'est extraordinaire. Donc elle est en séance de dédicace, mais elle sera également sur la scène avec Louise Portal dans une entrevue croisée, donc qui risque d'être fort enrichissante. On a également samedi une autre rencontre très, très agréable qu'on attend avec impatience, dont Louise Latraverse et Simon Boulris, mm-hmm. Donc qui risque d'être vraiment intéressant. Sinon, avant ça, ce soir à 18h30, on a Catherine Mercier qui anime la Semaine verte, donc qui vient animer une table ronde sur l'environnement. la transformation de l'environnement qui va être effectivement très intéressant. Mais on a aussi nos auteurs studios, c'est des spectacles littéraires. Donc, les spectacles littéraires, en fait, c'est qu'on veut entrer dans l'univers de l'auteur. On veut le connaître, lui, en tant qu'humain, parce qu'on souvent on connaît les personnages, on connaît ce qu'ils veulent bien nous raconter, mais celui qui écrit à l'arrière du livre, on veut le connaître. Donc, ce soir, on a Catherine Girard-Audet, qui est l'autrice des 18 tomes de La vie compliquée de Léa Olivier, qui a d'ailleurs ont fait une série à partir de ses romans.
Une donc, série jeunesse qui a oui, été très, très appréciée.
Oui, effectivement. Donc, ce soir, on la reçoit à Auteur Studio à 19h. Et on a également vendredi, c'est Bernard Werber.
Mettons la lumière quand même sur Bernard Werber. Je ne suis pas certaine que tout le monde peut reconnaître l'auteur. Mais il est fort fascinant parce que depuis sa... Bon, depuis, entre autres, l'apparition de Fourmi, en passant un très, 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 très bon livre, là, il est un des romanciers les plus lus, entre autres, en Russie et en Corée du Sud. Ça, c'est quand même fascinant là, qu'un auteur se rende dans des endroits, puis je veux dire des contrées lointaines comme ça, qui sont un petit peu plus fermées, normalement, là, à ce qui vient de l'extérieur.
Effectivement, on est tellement heureux de le recevoir. C'est vraiment un privilège de l'avoir avec nous. Il va également faire des séances de dédicace tout le long du week-end, en plus de faire l'auteur studio et une rencontre croisée également, mais je me souviens plus avec qui, j'ai pas en tête l'autre personnalité qui va l'accompagner, mais c'est un privilège de recevoir Bernard Werber.
C'est comme un philosophe qui écrit de la fiction. Donc, dans ses livres, ça nous fait réfléchir, puis en même temps, ça nous évade. Effectivement, comme privilège, c'est en fait vendredi 19h que vous allez pouvoir le voir, le rencontrer, l'entendre. Je dois mettre en lumière aussi la parution de Jean-François Lépine, qu'on reçoit ici à l'émission à quelques reprises par année, qui sera des vôtres au Salon du livre international, j'oublie tout le temps le mot, du livre de Québec. Il va être là samedi à 14h.
Oui, effectivement. Samedi à 14h en Auteur Studio, Jean-François Lépine. Samedi soir, Vincent Vallière. Donc, Vincent Vallière, qui a sorti un livre, mais on le connaît par son écriture, hein. C'est lui qui est auteur, compositeur, interprète, donc, de ses chansons. Donc, on est vraiment heureux de le recevoir. Ça va être tout différent. Et on a Guy Delisle aussi, qui est un maître BDiste qu'on reçoit dimanche, du côté d'Auteur Studio. Mais il y en a vraiment de tous les goûts. Il y a également le Festival BD qui fait partie de notre salon.
Oui.
Donc, qui est partenaire de l'événement. La BD est très fort à Québec. Vraiment.
Et pour tous les âges. Moi, d'entrée de jeu, en début d'émission, je disais, si jamais la lecture pour vous, c'est un effort supplémentaire qui n'a pas été développé, qui n'est pas déverrouillé, la BD, là, c'est une belle façon, en fait, de consommer la lecture, puis de triper, puis de découvrir des illustrateurs exceptionnels. Il y en a pour tous les âges. Il y en a pour... Quand on est jeune, en fait, souvent, on entre dans la lecture par ça. C'est un peu divertissant, les petites bulles, c'est des phrases courtes. Mais tout ce qui est Paul, la série, il y a aussi Fabien Cloutier, l'humoriste, l'auteur qu'on connaît, qui a écrit « Comment faire cuire un poulet » dans les dernières années, qui est finalement une BD assez renversante, puis humaine, puis touchante. Là. On ne savait pas où est-ce qu'il nous amenait jusqu'à la fin. Puis c'est à découvrir, en fait. Il y en a qui s'amusent beaucoup par la BD, mais au final, c'est une façon de s'exprimer qui est plus sérieuse qu'on pense.
Tout à fait, tout à fait. Puis qui peut justement semer une petite graine en nous qui fait qu'on va vouloir aller découvrir d'autres choses. Puis, mais tu sais, c'est un point de départ. Beaucoup plus facile parce qu'on se le dit, hein, faut qu'il y a un effort pour trouver dans quelle catégorie de lecteur on est, quel genre de livre. Mais c'est pas vrai que personne n'aime pas le livre. C'est comme la musique. C'est impossible de dire je n'aime aucune chanson, donc faut en écouter plusieurs styles, plusieurs catégories pour trouver son style, ce qu'on aime, ce qu'on préfère. Mais la lecture, ça demande un effort parce qu'il faut lire pour pouvoir trouver notre filon finalement personnel à nous.
Absolument.
Mais pour ça, pour aider dans cette figure-là, on a la Maison des libraires qui est ici avec des libraires qui sont là et également des auteurs vedettes qui font des prescriptions littéraires. littéraire. Donc, vous pouvez venir les rencontrer, ils vous posent des questions selon votre style, qu'est-ce que vous écoutez, des trucs comme ça. Puis là, à partir de là, ils vont dire, ah ben peut-être que j'aurais tel ouvrage ou tel truc qui pourrait vraiment t'aider. Puis là, ils vous font vraiment une prescription littéraire. Vous partez avec votre petit papier et vous avez des noms de livres qui pourraient correspondre à vos goûts. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
Oui, puis je pense qu'un exercice intéressant aussi, pour reprendre le mot, à faire avec les enfants, parce que c'est pas juste une grande bibliothèque où tout le monde est en silence discret, puis là, la bibliothécaire te fait signe d'arrêter de parler. Au contraire, c'est dynamique, le Salon du livre de Québec. D'amener les enfants là, c'est un moment en soi. Puis il y a des parents qui nous écrivent en ce moment qui disent « puis j'adore l'exercice, là. » Moi, j'ai amené ma fille du côté du Salon du livre, puis je lui ai dit « tu as le droit de sélectionner un livre. Sélectionne bien, mais on va te l'acheter. » Puis c'est devenu comme une quête, en fait. C'est devenu une chasse au trésor, lequel je veux ramener à la maison. Puis il dit « moi, j'ai pas jugé, là. C'est pas nécessairement celui que je lui aurais pris, mais par son engouement, son intérêt, bien, je sais que je viens de développer quelque chose de plus. » Puis ça nous a fait un beau moment d'exploration parmi tout ce qui était offert. Quelqu'un d'autre qui dit super, le Salon du livre, on est allé et j'ai acheté justement à mon enfant un nouveau livre pour investir et l'intéresser à l'épargne. Je ne sais pas sa fille a quel âge,
wow.
Là, mais ça a été le moment père-fille qu'ils ont vécu hier au Salon du livre. Mais c'est ça, en fait, c'est à ne pas sous-estimer, je pense, dans le dynamisme, dans l'intérêt, dans ce que vous amenez aussi, comme Jean-François Lépine, Jeannette Bertrand, on l'a dit, Weber. Il y a des gens à découvrir, puis même des auteurs un peu moins connus. Vous allez être surpris, en fait, de voir des gens que vous connaissez derrière les kiosques, là, puis qui ils sont très accessibles.
Oui, tout à fait. Tout le monde est accessible. Puis effectivement, vous l'avez dit, la jeunesse prend une grande partie. Et maintenant, nos jeunes connaissent hein, leurs auteurs jeunesse. Ils veulent venir à la rencontre pour avoir une dédicace. Ils repartent avec un livre là, qui a une valeur inestimable pour eux parce qu'ils l'ont rencontré, ils ont parlé à l'auteur, puis en plus, ils repartent à la maison avec une dédicace dans leur livre. Ça, c'est fantastique. Ils ont des lumières dans les yeux. Puis samedi et dimanche matin, on met vraiment l'emphase sur la jeunesse. Puis on invite tout le monde à venir en pyjama, donc à créer un événement fantastique au salon où est-ce qu'on est bien, on est relax, on s'amuse, il y a de l'animation. Donc, on invite tout le monde, les auteurs, et moi-même, je serai en pyjama samedi ou dimanche matin pour accueillir les gens. Donc, gênez-vous pas, on veut vraiment que s'approprier notre Salon du livre.
Merci beaucoup, Mélanie Pelletier, c'est quand même pas rien, là, directrice générale du Salon international du livre de Québec. C'est le fun de le rendre accessible, puis je pense que cette petite discussion-là ce matin a fait en sorte que des gens n'oublieront pas d'aller faire un tour ou encore d'aller le découvrir. Puis c'est votre cas, 88-971-1021, faites-moi signe aujourd'hui, demain, peu importe, ou lundi prochain, après votre première expérience, j'aimerais ça en entendre parler. Merci, Mme Pelletier.
Merci à vous.
Bon salon.
Mais bonne journée, au revoir.
Nous, c'est sûr qu'on va se croiser là-bas. À chaque fois, j'organise mon horaire pour être en ville quand ça arrive, le Salon du livre de Québec. Allez-vous l'essayer? Allez-vous tenter l'expérience? Ça vous a-tu convaincu, cette discussion-là? Et je vous rappelle là, que vous allez pouvoir rencontrer des personnalités quand même importantes qui ont des choses intéressantes à dire pour avoir la programmation. C'est super simple. Tapez Salon international du livre de Québec sur Google. Vous allez tomber sur le site et vous allez dans l'onglet programmation. Vous allez voir tous ceux dont on a parlé avec les heures, la journée. Si moi, je peux vous conseiller là, certaines parutions, bien sûr, Jeannette Bertrand, Bernard Werber, puis Jean-François Lépine, c'est sûr. Vous l'avez entendu ici, vous avez des choses à lui communiquer, vous avez envie de parler d'international, il va se faire un plaisir, mais c'est vrai que Vincent Vallière aussi sera là samedi. Donc, tant de gens à découvrir, mais surtout votre personnalité en termes de lecture à découvrir en fin de semaine au Salon du livre de Québec. Profitez-en bien.
Ah, le printemps! Leur CV avec Pascal CV.
On est de retour à l'émission, puis je vous avais dit qu'on avait bien des choses à discuter côté actualité, dont un article. Ça fait longtemps que j'avais pas autant réagi en faisant ma tournée de tout ce qui se passe dans tous les journaux récemment. Là, honnêtement, paragraphe après paragraphe, j'avais l'impression qu'on me niaisait tellement qu'on en ajoutait. Puis je vais enlever le son derrière, tiens, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Un article que j'ai vu sur la justice, finalement, c'est un homme qui a attaqué sa conjointe à coups de planches de 2x4 pour refaire sa vie avec sa maîtresse. Puis là, t'es comme, mais mon Dieu, c'est quand même assez intense, là, dès le départ comme situation. OK, on continue. Lui, il a plaidé coupable à une accusation de voies de fait grave, OK? Son nom, parce qu'on va le dire, Pierre Bérard, il a 56 ans. C'est une histoire qui donne des frissons dans le dos, je vous le dis, OK? Il a failli la tuer, son épouse, donc une femme qu'il a mariée, en la frappant avec cette planche de 2x4, là, en bois, là, raide, là, vous l'imaginez, pour les gars dans la construction en ce moment qui m'écoutent, vous dites, bon, ça n'a pas de sens, c'est quand même assez agressif. Oui. Et ben, la raison principale de ce qu'on comprend, c'est qu'il voulait faire une nouvelle vie, dont une vie avec sa maîtresse. Puis il a été enregistré à son insu par sa caméra de surveillance pendant l'agression, ce qui fait en sorte qu'on a des preuves de tout ça. Cette femme-là, donc son ancienne épouse, là, disons-le comme ça, a supplié le 3 février 2022, ça fait pas si longtemps que c'est arrivé, d'arrêter, en fait, cette violence-là, que Pierre Bérard arrête. Elle a même demandé « Pourquoi est-ce que tu me frappes? » Donc, la victime aurait été lourdement frappée à la tête. Je dis « aurait » pour utiliser le conditionnel, mais les images sont claires, nettes et précises. Des ecchymoses de cette ampleur-là. Je ne pense pas avoir déjà vu ça dans ma vie. Elle lisait là, tranquillement. Elle lisait ses nouvelles là, sur sa tablette électronique quand le premier coup a été donné. Puis son mari, là, à ce moment-là, des 24 dernières années, quand je vous dis qu'il y a plein de choses qui s'accumulent dans l'histoire, ça faisait 24 ans qu'ils étaient ensemble. Était enragé, les lèvres pincées. Il y avait un bâton de style genre le 2x4 là, dans les mains. Il a frappé sa femme, son épouse, à ce moment-là, comme je vous disais, à plusieurs reprises, ça l'a jeté par terre et il a continué de la frapper. Il l'a empoigné par les poignets, il l'a cogné au sol et là, elle implore d'arrêter, il continue. Les coups sont tellement violents qu'elle est persuadée là, qu'il va avoir des dommages très importants à son crâne. Il a essayé de lui casser le cou en faisant ces manœuvres-là. C'est vraiment une scène d'horreur là. Et ça s'est passé à Saint-Basile-le-Grand dans la résidence. Il a pris Bérard le temps de changer l'angle de la caméra quelques minutes avant, mais le son est capté. Donc ça, on a cette preuve-là en cours. Et la femme supplie Bérard d'arrêter parce qu'elle ne veut pas mourir. Et elle dit à un moment donné, si tu me tues, tu vas aller en prison. Puis c'est ça qui l'a gelé. C'est ça qui a gelé Pierre Bérard, de ce qu'on comprend du son enregistré. Et là, il a avoué à ce moment-là qu'il veut vendre la maison, il veut régler l'hypothèque, les affaires sont pas bonnes pour lui. Inspecteur en bâtiment, il a vu plein de contrats échapper là, entre ses mains en raison de vente de maison sans inspection. Ça se multiplie depuis le début de la pandémie. Il souffre d'un stress X. Sa femme a souffert de cancer et elle était condamnée, mais elle a survécu. Quand je dis ça s'ajoute, ça s'ajoute. Et puis là, les frais médicaux ont compromis les finances de la famille et peut-être que ça l'a fait tilter l'homme en question, mais le couple possédait là, des immeubles locatifs, tous au nom de madame, dotés d'une assurance préhypothécaire advenant son décès. Est-ce que c'est ça qui a joué? Je sais pas. Mais dans l'enregistrement, en plus, on entend l'homme avouer avoir une maîtresse. Il veut refaire sa vie. Il veut pas divorcer pour épargner les enfants, dont leurs enfants qu'ils ont ensemble. Par contre, si elle avait un accident, la transition pour lui serait bonne. C'est ça qu'il lui dit, qu'il lui nomme. Ensuite, ben là, finalement, on entend qu'elle essaie de négocier là, pour réussir à s'en sortir. Puis là, elle lui donne sa bénédiction pour refaire sa vie. Elle promet qu'elle va lui transférer les immeubles à son nom. Et là, il a été arrêté, Pierre Bérard, accusé de tentative de meurtre. Donc, on en est là dans le dossier. Mais le procès devrait débuter lundi prochain. Il a plaidé coupable. Là. C'est un peu difficile de se défendre quand on a une bande audio aussi impeccable. Et ben, pour l'instant, là, il s'en est tiré en étant reconnu. Il a reconnu, en fait, s'être adonné à des voies de fait graves qui auraient pu mettre la vie de sa victime en danger. Et là, le ministère public entend demander une longue peine de détention. C'est totalement violent. C'est des gestes qu'on dit extrêmement graves qui ont été reconnus. Mais cette histoire-là m'a donné froid dans le dos. Je sais pas ce qui, à un moment donné, dans ta tête, te permet d'aller aussi loin dans des gestes avec quelqu'un qui a passé plus d'une vingtaine d'années. Puis je dis même pas faire ça à quelqu'un que tu connais pas, là, vous comprenez mes propos. Mais cette histoire-là, je pense que c'est celle qui m'a le plus choquée ce matin en lisant l'actualité. Je dois vous dire aussi qu'il y a un chantier important jusqu'en 2026 qui est à souligner sur l'autoroute Félix-Leclerc. En fait, on veut refaire deux ponts et ça va créer des problématiques. C'est des travaux majeurs, là, ça coûte environ 82 millions de dollars et Et on entre aujourd'hui dans une phase active jusqu'en 2026, plusieurs années plus tard. Il y a des milliers d'automobilistes qui vont devoir être patients parce que les voies ont été rétrécies. Ça a été retranché aussi en direction ouest. C'est ce que vous avez vécu ce matin, peut-être pour certaines personnes. Et les travaux préparatoires ont été faits l'an dernier, donc on est prêt à aller un petit peu plus loin. C'est la construction, ou en fait la reconstruction, devrais-je dire, des ponts qui sont au-dessus des boulevards Masson-Lormière et de la rivière Saint-Charles. Puis aussi, là, de l'autoroute entre les deux ponts. C'est pour ça que c'est aussi lourd. Les ponts étaient en fin de vie utile. Donc, on a décidé de les refaire. Le ministère s'affaire à tout ça. Et c'est ça. Ça va durer pour un bon 3 ans, là, cette réflexion-là, ce retranchement là, pour plusieurs automobilistes. Vous pouvez trouver un autre endroit où circuler. Peut-être que ça va vous faire moins suer le matin et le soir, surtout en heure de pointe. La garde des stupéfiants revient dans l'actualité. Je dois mentionner qu'il y a 3 arrestations dans une frappe qui ont été faites à Lévis. Une bonne frappe, là, une frappe importante. C'est la police de Lévis qui a arrêté 3 suspects. Ça s'est fait ce matin. Et c'est en lien avec le conflit qui oppose les gangs de rue aux Hells Angels dans la région de Québec. Ça s'est fait à 5 h du matin. On n'a pas entendu que les gens se lèvent. Toc, toc, toc. T'as pas pris ton café. On t'embarque. Au moins 5 endroits qui ont été perquisitionnés par le service de police de la ville de Lévis, en collaboration toujours avec le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec. Et ça a été dans un immeuble à condo, entre autres, du côté de la route des Rivières. Ça, c'est dans le secteur Saint-Nicolas. Il y a un garage aussi sur la rue John Ascott. C'est à Sainte-Hélène de Brickyville qui ont été visés par les autorités, pardon. Et bon, on n'a pas encore la nature des saisies qui ont été faites. On va le savoir un petit peu plus tard. Mais on ciblait là, clairement 3 individus en lien avec un incendie criminel. Et c'est directement relié au conflit dont on connaît toute l'existence maintenant. Le feu en question, c'était celui sur la rue Sévigny, là, dans le secteur Saint-Romuald, le 11 octobre dernier. Il y a une voiture qui avait été incendiée dans des circonstances suspectes. Une bonne voiture, là, une Audi, là, d'après moi, une couple de personnes qui avait de l'argent dans ce conflit ou dans cette visée-là hein, du crime organisé. Puis, ben c'est ça, ils sont interrogés, les individus, en ce moment, par les enquêteurs. Peut-être qu'on aura plus d'informations qui vont mener à d'autres arrestations pour la suite, mais c'est ce qui s'est passé du côté de Lévis. Je dois vous parler de certaines choses un petit peu plus loin de nous, disons-le comme ça, mais qui sont assez importantes. Quand on parle de l'international, on parle également de ceux qui prennent la parole en termes de leader. Finalement, Joe Biden, qui a parlé, a appuyé encore Israël dans tout ça, dans le conflit qu'on connaît. Puis hier, on avait une discussion, entre autres, dans l'heure du midi avec Marceau le midi, avec notre chroniqueur international, Louis. Et on jasait justement de ces leaders-là qui ne prennent pas nécessairement position et qui peut-être nuisent ou encore ont les mains liées dans certains conflits à l'international. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Canada, Mélanie Joly, puis elle l'a répété à Tout le monde en parle dimanche dernier, a pris position en disant que le régime de Netanyahou est un régime qu'elle déplore. En fait, en ce moment, côté Israël, elle dit que ça va trop loin, que les représailles envers les Palestiniens, surtout on vise le Hamas, mais par le fait même, on vise la population, sont trop forts. Et puis, du côté des Américains, Joe Biden défend encore Israël et c'est là où je vais trouver ça intéressant dans les prochaines semaines de surveiller ça pour vous puis de voir est-ce qu'on va être capable de s'allier dans nos positions ou encore il va y avoir un petit recadrement à faire parce que souvent le Canada et les États-Unis se suivent, mais là, c'est pas le cas. En même temps, se positionner, choisir dans ce conflit-là, partie, c'est un peu plus complexe et c'est un peu impossible parce que ça reste que les dommages collatéraux sont importants au sein des populations même et autant en Israël que du côté de la Palestine, du moins de la bande de Gaza, plusieurs déplorent cette guerre-là depuis le début. Oui, il y a eu une attaque sanglante du Hamas, qui est un groupe terroriste envers Israël, mais les répercussions puis les représailles sont très, très fortes de la part d'Israël depuis le début. On a vu justement une mort du côté d'un travailleur humanitaire du côté de la Beauce, puis on en a parlé énormément. On va continuer d'en parler, c'est sûr. Mais voilà pourquoi c'est dur de prendre position. Finalement, c'est une guerre qui dure depuis des années, puis ça a escaladé, puis c'est comme si il n'y aura pas de gagnant là, assuré. Il y aura juste une société qui est perdante par rapport à deux leaders de deux organisations distinctes qui veulent défendre leur peuple, si on veut, mais finalement, ils nuisent encore plus à leur peuple. Les médecins de famille, on en a jasé hier aussi. Une première au Québec, il y a des super infirmières qui vont prendre en charge des patients sans supervision de médecins. C'est la première fois que ça arrive, comme je vous dis. À terme, là, c'est le gouvernement Legault qui espère ajouter 1000 nouvelles professionnelles capables de répondre aux besoins de la population. C'est difficile de consulter un médecin. C'est difficile d'avoir des soins. Même le sans rendez-vous est rendu avec rendez-vous. Et du côté de Christian Dubé, le ministre de la Santé, on a fait une annonce aujourd'hui. C'est un changement majeur dans l'accès à la première ligne. Ça veut dire première personne que vous pouvez consulter dans un problème de santé. Et ça s'est fait devant le congrès de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées. Ça fait longtemps qu'on parle, en fait, des pouvoirs qu'on donne aux infirmiers et infirmières. Je me rappelle, ça avait brassé avec Gaétan Barrette dans le temps, lorsque les libéraux étaient au pouvoir. Gaétan Barrette qui avait une main de fer dans un gant de fer, hein, pas dans un gant de velours, et qui avait justement essayé de rebrasser le tout, mais la santé étant un gros paquebot, des organisations étant très protocolaires, très administratives, ça a été un petit peu plus compliqué. Et là, le bureau parlementaire de Québécois a su qu'à compter du 15 avril prochain, ça va venir très vite, on est le 11, les IPS en soins de première ligne vont pouvoir inscrire directement des patients qui sont en attente sur le guichet d'accès à un médecin de famille. Ils vont pouvoir faire les soins et normalement, ils sont encadrés par un médecin de famille. Québec a élargi leur champ de compétences au courant des dernières années, ce qui fait en sorte que certaines vont pouvoir aller un petit peu plus loin, vont pouvoir diagnostiquer des maladies, préparer des plans de suivi, entre autres pour l'hypertension, l'asthme, les maladies pulmonaires obstructives, et elles vont pouvoir aussi assurer un suivi de grossesse. Dans l'éventualité où il y a un cas là, qui excède leur champ de compétences, ça peut arriver, tu arrives devant cette infirmière auxiliaire-là, puis ton cas est un peu plus lourd qu'on pensait. Elles vont adresser le patient à un médecin de famille comme elles faisaient auparavant ou à un autre professionnel de la santé. Et dans un premier temps, là, cette annonce-là qui est faite aujourd'hui, ça va concerner principalement la trentaine de super infirmières qui œuvrent dans 11 cliniques d'IPS qui sont déjà ouvertes, mais sachez qu'on prévoit en inaugurer 8 autres succursales au cours de l'année pour un total de 23 d'ici 2028. C'est pas énorme, mais quand même, ça existe, puis on se dirige vers tout ça, puis on espère honnêtement pouvoir vous donner un accès plus pratique, plus efficace au courant des prochaines années. C'est des gens qui sont très compétents malgré tout, là, on s'entend, malgré tout, puis encore là, c'est pas les bons termes, là, qui sont très compétents par leurs études, puis ils prendraient pas de risques, ils voudraient pas perdre quand même tout ce dont ils ont travaillé pour dans les dernières années, puis perdre leur nom, leur titre, leur réputation. Le climat toxique à l'Hôtel de Ville fait encore la manchette aujourd'hui. Jackie Smith, qui a trouvé risqué de jouer les victimes dans le dernier conflit là, entre tout le monde, je vais le dire comme ça, c'est la conseillère municipale de Limoilou. Vous l'avez vu souvent, vous en avez entendu parler souvent, mais elle avance que c'est dangereux de crier au loup quand il est question d'intimidation. On comprend un peu sa position par rapport à ce qui s'est passé du côté de l'Hôtel de Ville. Et elle a quand même affirmé que la plainte qui a été déposée par la conseillère Alicia Despins à la Commission municipale du Québec pour qui dénonçait finalement un climat toxique, on l'a reçu ici sur les ondes de boulevard aussi, relevait en partie d'une manœuvre politique. Oh, c'est gros quand même. Donc, rappelez-vous, les allégations de gestes violents, agressifs et harcelants de la part d'élus municipaux ont été étudiées par la Commission et on n'a trouvé aucun élément pour justifier des sanctions et on a mis fin à cette enquête-là. Ça reste qu'elle ajoute, Jackie Smith, que c'est délicat, très délicat dans l'arène politique de jouer les victimes. C'est dommage pour les personnes qui sont véritablement victimes. Je trouve que c'est beaucoup, en fait, c'est des grosses affirmations à suivre. C'est sûr qu'on va devoir reparler de Jackie Smith parce que des fois, on est un peu frileux, aller vouloir tracer une ligne, en fait, entre qu'est-ce qu'une victime, qu'est-ce qu'il n'y en est pas, quels gestes sont acceptables, quels gestes ne le sont pas. Est-ce que si moi, ma montagne paraît plus à pic que la tienne, on doit me juger en conséquence si je me suis senti mal dans une certaine situation, puis que d'autres non, est-ce que c'est négligeable? Puis c'est un peu ce qu'Alicia Despins, conseillère municipale de Vanier-du-Berger, a souhaité transmettre à son tour comme communication. Elle dit, venir tracer une ligne, ça c'est une vraie victime, ça c'en est pas, elle trouve ça dangereux. Elle a peur aussi que ça vienne invalider le vécu des autres qui subissent certains gestes, que ce soit des menaces, de l'intimidation, des insultes. Elle trouve pas ça approprié. Comment est-ce que vous positionnez là-dedans? Ça vous appartient, puis je suis toujours très intéressée à vous entendre là-dessus, parce que ça reste Je pense que ça reste très important pour la Ville de Québec en ce moment. On se dirige tranquillement pas vite vers des élections, puis j'ai l'impression que ce genre de statut-là politique va influencer beaucoup de votes, va influencer aussi comment on va se sentir géré dans la Ville, comment est-ce qu'on va être capable de gérer de gros projets si des détails sont aussi importants et prennent autant d'ampleur quand peut-être il ne faut pas ou quand peut-être il faut. Ça dépend officiellement de comment tout le monde se sent. Mais aussi, là, où est-ce qu'on s'en va? Avec la Ville de Québec, là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas au-delà d'un climat de tension. Qui va se représenter? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas nécessairement le faire? Est-ce que Sam Ahmad s'en vient? Tant de choses à comprendre. Puis j'ai une petite déception en ce moment par rapport à ça, parce qu'on a été longtemps une ville assez forte, une ville connue comme étant dans le leadership au devant. Là, je parle qu'on aime ou pas d'une mairesse Boucher, d'un Régis Labeaume. Même moi, j'étais épuisée de Régis Labeaume à la fin. La mairesse Boucher, je n'étais pas encore à travailler au professionnel à la radio quand elle était en poste, je ne peux pas dire. Souvent, Jean-Paul Allier, tout le monde en parle aussi. Il y a eu comme un genre de force, de colonne vertébrale qui décrivait Québec pendant plusieurs années. On l'a laissé un peu tomber. Est-ce que c'est à caractère politique au grand sens du terme, autant fédéral, au provincial qu'au municipal. On pourrait l'analyser, on pourrait en jaser. Mais chose certaine, ça a changé. Puis c'est intéressant de le constater. Puis on peut voir aussi, est-ce qu'on est allé dans un extrême au départ parce que on était dans un autre extrême puis ça ne convenait pas? Est-ce qu'on va rééquilibrer le tout? Qu'est-ce que vous recherchez, vous, dans la politique municipale? Parce qu'il y a quelque chose à explorer, je pense, dans la façon d'en faire en ce moment. Puis quand on voit des déboires à l'hôtel de ville comme récemment, tout le monde qui s'accuse, finalement, personne ne s'accuse. Les vidéos ne sortent pas. Il n'y a pas d'enquête qui se fait sur des supposés gestes d'agression. Mais là, on est-tu dans un épisode de Degrassi, là? Degrassi Nouvelle Génération, ça a déjà été fait à la télévision. Là, c'est-tu Degrassi Nouvelle Génération 2.0 au municipal? Est-ce qu'on est dans les feux de l'amour? Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Ça a pris, rappelez-vous, l'actualité d'assaut pendant de nombreux jours. Nombreux jours, pendant qu'on ne parle pas d'autres enjeux. Là, on a à se questionner. On embarque-tu là-dedans? On n'embarque-tu pas là-dedans? En même temps, si agression, pour moi, il faut que ce soit dénoncé. Où est-ce qu'on s'en va? Qui ça va nous prendre? 88-971-1021. Hey, avant de partir écouter les vulgaires machins, je vous pose la fameuse question psychologique de la journée. Vous êtes quel genre d'ex, vous? Vous êtes quel genre de personne après une rupture? Pourquoi? Il y a une étude qui nous parle beaucoup de façon inconsciente ou consciente, des gens qui ont besoin rapidement d'aller se réconforter, pas parce qu'ils souffrent, pour moi, c'est une souffrance, les gens qui vivent avec la dépendance affective, mais est-ce que vous avez besoin de chaleur humaine très rapidement, par après, pour vous sortir la personne que peut-être vous aimez encore de la tête? Je veux votre profil là, relationnel après une relation, justement. Au 88-971-1021, confiez-vous, c'est parti. On en reparle dans un instant après les vulgaires machins et Asile à Boulevard 101. J'adore ça. C'est parti dans tous les sens, en fait, ma question. Beaucoup de gens qui ont commencé à répondre différentes choses, en fait. Il y a une étude qui est sortie comme quoi, oui, ça existe, les rebounds. Ben là, on n'avait pas besoin d'études pour savoir ça après une relation. Mais parfois, ils sont inconscients. De peur de souffrir encore, le fait de s'ouvrir à l'autre est très difficile. Donc, des gens vont choisir d'avoir des relations, éphémères, là, disons-le comme ça, qu'elles soient sexuelles ou pas, avec des gens qui les attirent pas vraiment pour s'assurer de ne pas être blessé, pour s'assurer de rester en surface individuellement là, dans cette relation-là. Ce qu'il faut aussi peut-être être conscient, c'est que l'autre peut tomber en amour avec nous, puis ça peut être un petit peu complexe, puis faire de la peine à des gens. Mais je posais la question, vous êtes quel genre de personne, vous, après une relation significative? Là? On ne parlera pas d'une relation de fin de bord. Là. Je vous parle d'une relation significative, que ce soit vous qui avez de la peine, ou l'autre, ou les deux. Hein, des fois, mettre fin à une relation, ça peut être extrêmement souffrant aussi. Je vous demandais, c'est quoi votre profil type? Et là, les réponses sont allées de toutes parts. On a des profils types du genre « je coupe tous les contacts, je veux pas savoir comment la personne va, je veux pas qu'elle sache comment je vais », pour plusieurs raisons. Une première raison qui est sortie, c'est de pas se faire mal ou de pas faire mal à l'autre. Je sais pas si le fait de couper les ponts, ça peut faire plus mal que pas. À vous de voir, chaque personne est différente là-dedans. quelqu'un d'autre qui coupe tous les ponts pour pas donner d'espoir aussi et pour guérir plus rapidement. Donc, peut-être loin des yeux, loin du cœur. Quelqu'un d'autre qui dit, je sais pas moi comment je serais, j'aurais de la misère à l'interpréter puis le savoir parce que ma dernière rupture remonte à 97. Quelqu'un qui est en amour depuis très longtemps avec la même personne. Puis il y a quelqu'un aussi qui le mentionnait parce qu'il dit « Ah, dur à dire, moi je suis en couple avec ma femme depuis 99. Mon ex, avant ma femme, c'était « Vivre et laisser vivre » et « Je te souhaite d'être heureuse » quand je l'ai laissée. C'était ma blonde du secondaire. Elle vit maintenant en Ontario. On se parle des fois. Oui, on peut-tu parler à nos ex? Moi, je suis vraiment dans cette gang-là que oui. Ben, quand c'est sain, en fait, là, que oui. Puis même, ça reste des amis impérissables, disons-le comme ça. Là. La personne continue. Tout le monde mérite d'être heureux, incluant nos ex. Totalement d'accord avec ça. Entre les deux, j'ai été 2 ans célibataire. Mes années de débauche, j'aimais mieux être seule et pas faire de peine à personne. Mais ça, il faut tellement être conscient. Il faut être capable de se réguler intérieurement puis de savoir, bon, es-tu en train de tomber en amour avec moi, l'autre personne? Est-ce que j'ai bien nommé les choses? Où est-ce que j'en suis, moi? Est-ce que je suis plutôt dans l'affection qui est éphémère, superficielle, justement, pour me protéger? Ou je suis dans le déni complet, là, puis si t'es dans le déni, ben t'es pas capable de faire d'introspection. Et je te le conseille. Je te le conseille de t'arrêter. Si jamais tu vois quelqu'un puis tu sais pas trop où est-ce que ça s'en va, ne serait-ce que de faire mal ultimement à une personne et non à chaque jour, c'est une belle chose à considérer, je pense, humainement parlant, pas juste nos besoins personnels. Hmm? Quelqu'un qui dit « J'ai jamais couché avec un gars sans ressentir de sentiments. Je n'ai vécu que de longues relations sérieuses. Ça va beaucoup avec ma question principale quand je vous demandais « Êtes-vous capable d'être en relation superficielle avec quelqu'un qui ne vous attire pas? » Parce que justement, dans cette étude psychologique-là, ce qu'on prouvait, c'est que oui, beaucoup de personnes choisissent cette relation-là où la personne ne l'intéresse pas nécessairement peut-être au niveau physique, là, sans être dégoûtée, bien sûr, et où en étant émotionnellement non attaché à cette personne-là, sachant que tu tomberas jamais en amour, parce que c'est rassurant, c'est confortable, et toi, ça t'assure de ne pas avoir de mal. Mais là, ça, c'est peut-être un petit peu égoïste, si c'est pas nommé. Quelqu'un qui dit « Je suis du genre à vouloir garder la personne dans ma vie si ça se termine bien, mon ex, sinon je coupe les ponts, mais je prends plusieurs mois pour voir quelques années. » Pour avoir un intérêt envers quelqu'un d'autre. Question de me recentrer et de bien évaluer où j'en suis et ce que je veux. Je pense qu'à la base de chaque relation sérieuse, il y a une forte amitié et il y a aussi une connaissance de soi suite à la dernière. C'est très bon, ça. Quelqu'un qui dit... Je ne serais jamais capable de coucher avec quelqu'un en étant encore en peine d'amour. Pour moi, ça résulterait... d'une tromperie, même si l'autre personne s'en fout carrément, je serais pas capable de m'abandonner. Donc, fort probablement, parce que la personne, de ce que je comprends, est encore en couple, puis peut-être qu'elle parle d'un vécu antérieur, mais quelqu'un qui dit justement, là, je serais pas capable, même tout ce qui est attrait aux lèvres, aux French ou autre, ce serait d'une intimité que je ne pourrais me permettre. Bien sûr, je pleurerais beaucoup parce que je sentirais que je suis la personne des deux qui s'en fait avec ça. Ouais, très intéressant. Quelqu'un qui s'en va plus loin, qui dit « Je suis séparée de la mère de mes enfants depuis 2013 et la décision venait d'elle et je suis avec ma conjointe depuis 2013. » Oh! Assez rapide. Et aussi pour les enfants, nous avions gardé une bonne relation. Souvent, c'est ça, hein, quand on est parent, là, veut pas, ça va avec là, le fait de prendre soin des enfants dans tout ça, parce que justement, bien, on n'est pas tout seul, on n'est pas juste un couple, on peut pas juste être émotif et s'en foutre, passer à autre chose. Les enfants, je veux dire, ils vont rester impactés beaucoup de votre décision, puis ils vont rester impactés beaucoup de comment vous allez gérer cette situation-là. Ça va en plus influencer comment ils seront dans leur future relation interpersonnelle. Et ça, c'est prouvé que vous vous en rendez compte ou pas et que vous voyez l'impact ou pas. Comment vous allez traiter votre conjoint ou votre conjointe devant vos enfants va créer justement le spectre de l'amour chez vos enfants. Hey, ça va vite, cette émission-là. Pareil, hein? Je dois déjà vous quitter. L'heure CV qui se termine. Continuez de m'écrire. Je vais vous lire tous et chacun. Super intéressant. Ça pogne tout le temps. À chaque fois que je viens qu'à jaser de ce genre de choses-là avec vous, vous êtes très vocaux sur vos claviers, disons-le comme ça. Merci beaucoup d'avoir été là dans un instant. Yannick Marceau s'en vient pour Marceau le midi. Tom Gauthier se joint à nous. Un bonheur de vous accompagner à Boulevard 102.1. C'est Sarah Dufour avec Je m'en vais dans le bois, tout de suite dans vos oreilles.